VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mercredi 8 avril. À la une ce soir.
En Centrafrique, le ministre du Tourisme, Romaric Vomitiadé, est condamné à 2 ans de prison ferme pour le viol d'une mineure de 16 ans.
RDC, réaction à l'arrestation hier à Goma de 4 membres du mouvement citoyen congolais Lucha.
La liberté d'expression est totalement réprimée alors que tous ensemble, aux médias et partout ailleurs, nous sommes prêts à dire que nous sommes un État démocratique.
On écoutera le militant congolais Duvin Kombi.
La France déclassifie les archives de la présidence sur la période du génocide au Rwanda. Nous aurons la réaction de Kigali.
Washington accélère des livraisons d'armes à ses alliés du Golfe en appui à la campagne menée par l'Arabie Saoudite contre les Houthis pro-iraniens au Yémen.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
En Centrafrique, le tribunal correctionnel de Bangui a condamné ce matin à 2 ans de prison ferme le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat pour le viol d'une mineure de 16 ans le 25 janvier dernier. Le crime a été perpétré lors d'une mission à Yaloké, dans l'ouest du pays. Romaric Vomitiadé écope par ailleurs de 300 000 francs CFA d'amende et de 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Félix Epassi-Zembro a recueilli la réaction de l'un de ses avocats, maître Jean-Louis Opalanga.
Je constate que c'est une parodie de procès. La décision ne correspond même pas aux faits. On ne peut pas tirer argument de ce que des habits ont été exhibés à l'audience pour condamner quelqu'un. En plus, un ministre encore en fonction par le tribunal de grande instance a une condamnation ferme. Le juge disqualifie les infractions de pédophilie et d'atteinte à la liberté, à la promotion et au développement de la jeune fille, mais ne dit pas quelle est l'infraction envers laquelle il les requalifie. Il s'arrête seulement à disqualifier et il va dans l'attentat à la pudeur consommée avec violence, alors qu'il n'y a pas eu de consommation.
Maître, selon vous, les chefs d'accusation retenus dans cette affaire ne sont donc pas avérés?
Non, il s'agit d'un complot dont les sources sont diverses. Il y a d'abord le camp duquel il est sorti pour être ministre. Il y a en plus son département ministériel. Il y a enfin ses collègues membres du gouvernement qui ne veulent plus de lui parce qu'il est tombé sur un dossier compromettant à l'égard d'un ministre conseiller à la présidence.
Maître Jean-Louis Opalanga, avocat de Romaric Vomitiadé, condamné, rappelons-le, à 2 ans de prison pour viol sur mineur.
Centrafrique, toujours, le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, Michel Amine, a été arrêté pour possession de faux documents de voyage hier à l'aéroport de Bangui. En possession de 3 passeports centrafricains, camerounais et afghans, il a été remis au parquet.
Le Rwanda s'est félicité de la déclassification par Paris des archives de la présidence française sur le Rwanda de 1990 à 95, non sans rester toutefois prudent sur la portée de la décision. Les précisions d'Eddy Sango.
La mesure prise mardi pourrait permettre un éclairage sur le rôle de la France au Rwanda pendant les génocides. Bien que certaines critiques avancent que les archives de la présidence française ne sont pas les plus sensibles, le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a salué la décision de Paris tout en soulignant que le Rwanda s'attend à une déclassification totale, rapporte l'AFP. L'ancien secrétaire général de la Commission nationale de la lutte contre les génocides, Jean de Dieu Moussio, aujourd'hui président de la commission Moussio, ayant publié en 2008 un rapport sur le rôle de la France, a abondé dans le même sens. Les rapports Moussio accusaient la France d'avoir participé activement à la préparation du génocide et ses soldats d'avoir pris part à des massacres et à des viols. Des documents déclassifiés par l'Élysée vont être mis à la disposition des associations de la société civile et Paris a promis que les archives parlementaires et des ministères des Affaires étrangères et de la Défense seront également déclassifiés, mais à des dates inconnues à ce jour.
À N'Djamena, les enseignants du primaire et du secondaire ont déclenché une grève ce mardi pour dénoncer les retards de paiement de leur salaire. Nathalie Barche.
Les écoles et lycées publics sont fermés depuis mardi matin, a déclaré Blaise Djimtoïdé, secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, cité par l'AFP. Monsieur Jim Toïdé précise que les enseignants ont systématiquement des retards de paiement de leur salaire de 10 à 15 jours depuis 8 mois. Nous demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour verser nos salaires à temps, a déclaré le syndicaliste, ajoutant que la grève deviendra automatique si les salaires du mois dernier ne sont pas réglés cette semaine. La société civile et l'opposition demandent régulièrement au gouvernement de consacrer les bénéfices pétroliers à l'amélioration des conditions de vie de la population, encore majoritairement très pauvre au Tchad, un pays figurant parmi les 10 derniers au monde dans le classement de l'indice de développement humain de l'ONU. Le Tchad enregistre actuellement une baisse de ses recettes à cause de la chute des cours du brut. N'Djamena a investi l'argent des revenus pétroliers, surtout pour la modernisation de l'armée, le réseau routier et la construction de bâtiments publics, sans pour autant améliorer la qualité de vie des chômeurs et travailleurs tchadiens qui sont nombreux à vivre dans le plus grand dénuement.
Au Burkina Faso, la grève générale contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou. D'après l'AFP, la plupart des entreprises et services publics sont restés ouverts. Seule l'université de Ouagadougou et les établissements scolaires sont restés fermés. Les syndicats et des associations de la société civile exigent la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, ainsi qu'une augmentation des salaires.
En Côte d'Ivoire, affrontement au palais de justice d'Abidjan entre des policiers et des femmes, membres du Front populaire ivoirien, le parti politique de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les manifestantes étaient venues soutenir Marie-Odette Lorougnon, responsable des femmes du FPI, arrêtée la semaine dernière, puis déférée hier devant le parquet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 14e jour de l'intervention militaire saoudienne au Yémen, Washington accélère des livraisons d'armes à ses alliés du Golfe. De son côté, Téhéran vient d'envoyer deux de ses vaisseaux de guerre dans les eaux du Yémen, Salwa Jafari.
Le destroyer aux couleurs de la révolution iranienne accompagné d'un autre navire sont déjà en route vers les eaux du Yémen. Une manœuvre que Téhéran dit faisant partie de ses efforts anti-piratage pour protéger ses routes navales. Pour beaucoup, ce mouvement est loin d'être innocent. Il est même très dangereux dans ce contexte de guerre, surtout que les États-Unis viennent de leur côté d'accélérer les livraisons d'armes à leurs alliés du Golfe. Écoutez le chef du Pentagone, Ashton Carter, lors d'une conférence de presse.
Nous leur procurons des informations de surveillance, de reconnaissance, pour les aider dans leur campagne, de l'assistance logistique. Nous allons les réapprovisionner en équipement et en munitions.
Ainsi que du matériel médical. Il faut dire que la situation sur le terrain est catastrophique selon les Nations Unies et autres organisations non gouvernementales. 11 personnes au moins ont été tuées aujourd'hui à Aden, la grande ville portuaire du Sud. Les affrontements ont eu lieu entre rebelles chiites et partisans du président Abdurrabbo Mansour Hadi, soutenus par l'Arabie. Des cadavres étaient même visibles dans les rues. La population civile est piégée et les aides humanitaires ont du mal à être acheminées. Le comité international de la Croix-Rouge a lancé un appel à une trêve humanitaire de 24 heures pour pouvoir apporter un soutien médical à la population.
L'Union européenne a de nouveau approuvé des sanctions contre une banque et 32 sociétés d'expédition iraniennes, environ 3 mois après le rejet de telles mesures par un tribunal européen. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'accord politique sur le nucléaire iranien, accord négocié par Téhéran avec l'Allemagne et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.
La Grèce prend position contre les sanctions occidentales imposées à la Russie en rapport avec le rôle de Moscou dans le conflit ukrainien. En voyage dans la capitale russe, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a appelé ce mercredi, aux côtés du président russe Vladimir Poutine, à abandonner le cercle vicieux des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de Moscou, indique l'AFP. D'autres sources signalent que M. Poutine a suggéré une possible levée de l'embargo russe contre les importations de produits alimentaire de la Grèce. En dépit de sa crise financière, le dirigeant grec n'a pas sollicité d'aide dans ce domaine, a déclaré le président Poutine.
Syrie, 32 personnes ont été tuées dans une double attaque attaque à la voiture piégée au nord d'Alep, rapporte l'AFP, qui cite l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les deux attaques imputées au groupe État islamique ont eu lieu mardi soir dans des localités contrôlées par la branche syrienne d'Al-Qaïda, le front Al-Nusra.
Et l'ancien secrétaire de la présidence de Barack Obama, Rahm Emanuel, vient d'être réélu maire de Chicago, devançant largement Jesus Garcia, un libéral peu connu. Emanuel, qui a dirigé le personnel de la Maison Blanche durant le premier mandat du président Obama, a remporté le scrutin d'hier avec 56% des suffrages. En février, il n'avait pas obtenu les 50% requis pour éviter un second tour malgré sa victoire face à 4 candidats.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
La Suisse octroie un appui d'environ 9 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour la mise en œuvre de deux programmes dans le secteur agricole, annonce le ministère en charge de l'agriculture, cité par l'agence APA. Il s'agit du programme de valorisation du potentiel agropastoral dans l'Est, VALPAP, d'un coût global de 3,5 milliards de francs CFA et du programme de modernisation des exploitations familiales, le PAMEFA, à hauteur de 5,4 milliards de francs CFA. La Suisse fait ainsi de la lutte contre l'insécurité alimentaire l'un des objectifs majeurs de sa coopération avec le Burkina Faso. La foire Forum Carnaval de Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, a été ouverte mardi. Durant 5 jours, l'événement sera marqué notamment par une foire commerciale, un concours de beauté appelé Miss Carnaval, des prestations artistiques, un forum de dirigeants des villes secondaires des pays de l'UEMOA et un bal masqué. Initié dans les années 60, le Carnaval de Bouaké avait connu une certaine renommée dans la sous-région ouest africaine avant d'être interrompu il y a 15 ans. Et plusieurs centaines de travailleurs d'une des deux mines d'Areva dans le nord du Niger ont entamé mardi une grève de 3 jours pour réclamer le versement d'un reliquat de prime, a-t-on appris de sources syndicales. À Niamey, la direction d'Areva a confirmé la grève en précisant que la prime en question portait sur l'année 2015. Cette première journée de grève a été bien suivie au-delà des 80%, s'est félicité le syndicat. Seuls certains travailleurs ont suivi la grève, affirme pour sa part Areva.
C'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Merci.
En studio, Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Place au sport, l'information du jour, la CAN 2017. On connaît le pays hôte au moins.
Oui, c'est le Gabon qui va accueillir donc cette édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon qui l'a emporté face à deux autres pays candidats, l'Algérie et le Ghana, pour organiser cette 31e CAN. Cette édition devait initialement se disputer en Libye avant que ce pays en proie à une guerre civile ne se désiste. Le Gabon donc avait déjà organisé la CAN en 2012 avec la Guinée équatoriale accueillant notamment la finale sur son sol à Libreville.
Et bien sûr, l'autre info concernant la CAN, Bagassi, c'est le tirage au sort des groupes.
Oui, parmi les 13 groupes de qualification, deux d'entre ces groupes donc sont particulièrement relevés. Il s'agit du groupe G, où on retrouve le Nigeria, l'Égypte, la Tanzanie et le Tchad. Il y a aussi le groupe M, Cameroun, Afrique du Sud, Gambie et l'île Maurice. Et bien sûr, il y a les autres groupes. On commence par le groupe A, où se trouvent la Tunisie, le Togo, le Libéria et Djibouti. Donc, dans le groupe B, la RDC sera aux prises avec l'Angola, la Centrafrique et Madagascar. Dans le groupe C, on retrouve le Mali, la Guinée équatoriale, le Bénin et le Soudan du Sud. Dans le groupe D, le Burkina Faso sera avec l'Ouganda, le Botswana et les Comores. Un groupe à notre portée, Chérubin.
Notre portée, ça veut dire quoi?
Nous tous, on est derrière les étalons.
Groupe E.
Dans le groupe E, on retrouve la Zambie, l'équipe Polo Polo qui seront avec le Congo-Brazzaville, le Kenya et la Guinée-Bissau. Dans le groupe F, le Cap-Vert sera avec le Maroc, la Libye et Sao Tomé. Dans le groupe H, on retrouve le Ghana qui n'a pas été retenu pour abriter l'édition, le Mozambique, le Rwanda et la Mauritanie. Dans le groupe I, la Côte d'Ivoire sera avec le Soudan, la Sierra Leone et le Gabon. Et dans le groupe G, on aura l'Algérie, l'Éthiopie, le Lesotho et les Seychelles. Et enfin, non, pas enfin, dans le groupe K, on a le Sénégal, le Niger, la Namibie et le Burundi. Et enfin, dans le groupe L, on a la Guinée, Malawi, Zimbabwe et Swaziland.
Et si, comme moi, vous ne pouvez pas retenir tout ça, visitez voaafrique.com. Voilà. Alors, la première journée des qualifications, c'est quand?
C'est le 12, hein, le 12, 13 et 14 juin prochain. Et la sixième et dernière journée aura lieu les 2, 3 et 4 septembre 2016.
Merci Bagassi Koura pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guerriec en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour, première escale, République démocratique du Congo, plus précisément Morgane, l'Est de la RDC.
Quatre membres du mouvement citoyen congolais Lucha ont été arrêtés hier à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, alors qu'ils manifestaient en faveur de la libération d'autres militants détenus à Kinshasa. D'autres personnes se sont rendues aux forces de l'ordre ce matin pour protester contre ces arrestations qu'elles qualifient d'arbitraires. Duvin Kombi est un des militants de Lucha à Goma.
Depuis 7 heures, nous étions réunis devant le bureau de la police qui venait à peine d'arrêter nos amis à Dantillet. Ce qu'on demandait, c'était que si on les libère ou si on ne veut pas les libérer, qu'on nous prenne aussi. Nous étions venus là parce que nous étions censés être complices avec eux s'ils trouvaient de mal à les reprocher. Tous ceux qui nous connaissent savent bien comment est-ce que nous manifestons, nous faisons dans toute la légalité.
Et déjà, il y a plusieurs militants qui se sont rendus aux forces de police.
Exactement. Nous sommes venus ensemble là parce que tout ce qu'ils reprochent à ses amis, qu'ils ont arrêté, nous tous ensemble, nous sommes d'accord avec. Et d'arrêter quatre parmi nous et de nous laisser à l'extérieur alors qu'ensemble, nous avons organisé ça. Donc, nous étions venus pour qu'ils nous arrêtent de même. Mais ils nous ont demandé de quitter. Nous sommes entrés dans la culture, dans la dite enclos où il y a le cachot. Mais ils nous ont demandé de quitter parce qu'ils voulaient transférer le dossier à des autorités compétentes selon eux. Mais nous continuons toujours à faire pression.
Alors, l'un des principaux militants, Fred Boma, est détenu à Kinshasa depuis son arrestation le 15 mars. Que vous pouvez nous rappeler quelles actions vous avez mises en place pour obtenir sa libération?
Même l'action civile du coup de sifflet qui était en train de se faire, c'est parmi les actions que nous avons mises en place pour que cette question reste à la une et que les autorités entendent par là que nous sommes indignés de cette situation qui n'est pas du tout normale dans un État démocratique. À partir de 17h10 jusqu'à 17h05, la population est en train de s'y souhaiter sur l'étendue de la ville de Goma parce que c'est là qu'on est plus cloisonné, même si l'appel va au-delà. Ce que nous faisons, mais plus pratiquement, c'est dans la ville de Goma que cela est en train de se faire. Et nous avons dit que l'action prendra un minimum de 10 jours. Nous ne trouverons pas normal de vivre dans un État où la liberté d'expression est totalement réprimée, alors que tous ensemble, aux médias et partout ailleurs, nous sommes prêts à dire que nous sommes un État démocratique. C'est très indignant et pour moi, c'est un appel à tous ceux qui sont censés garantir la liberté des uns et des autres. D'écouter cet appel que nous sommes en train de lancer.
Duvin Kombi, activiste du mouvement citoyen Lucha en République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Claire Morin-Gibourg.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Cap sur le Niger, le président Issoufou Mahamadou a dressé hier son bilan après 4 années au pouvoir. C'est le 7 avril 2011 qu'il a pris fonction à la tête de l'État nigérien après une transition militaire. À 1 an de la fin de son mandat, Mahamadou Issoufou dit avoir atteint tous les objectifs inscrits à son programme de gouvernance. D'autres détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Face au président Issoufou Mahamadou, une dizaine de journalistes. Ils ont passé en revue les 4 ans de réalisation entreprise au profit des populations du Niger. À un an de la fin de son mandat, le président Issoufou Mahamadou dit avoir atteint tous les objectifs qu'il s'est fixés au soir du 7 avril 2011.
Je suis satisfait de la réalisation du programme. Dans tous les secteurs, nous avons tenu nos promesses. Et d'ailleurs, c'est déjà un aspect extrêmement positif d'avoir un programme. Ce n'est pas toujours qu'on arrive au pouvoir avec un programme. Nous nous sommes arrivés au pouvoir avec un programme très clair, avec un programme avec des objectifs quantifiables, évaluables. On vient de faire le bilan. Vous avez vu, on est passé à travers tous les secteurs. Pratiquement toutes les promesses qu'on a faites sont en train d'être tenues. Nous ne sommes pas encore à la fin du mandat.
Malgré tout, quand il lui a été demandé s'il allait se porter candidat à sa propre réélection en 2016, le président Issoufou affirme qu'il a encore à faire. Ce n'est donc pas sa préoccupation, dit-il. Cette tradition de conférence de presse bilan a été instituée par le président Issoufou Mahamadou pour rendre compte chaque année au peuple des actions qu'il a entreprises en sa faveur. Une initiative que beaucoup de citoyens saluent car ils la vivent ainsi pour la première fois depuis l'ère démocratique. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Les Camerounais déplacés par les incursions de la secte Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun disent qu'ils vivent dans des conditions désespérées, passant parfois plusieurs jours sans nourriture, sans eau et sans médicaments. Pour eux, le gouvernement camerounais et les agences de l'ONU ignorent leurs besoins et s'occupent uniquement des réfugiés nigérians. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à Mora, dans l'extrême nord du Cameroun. Bagui Sikoura nous lit son reportage.
Chant des écoliers déplacés ici dans une école publique de Mora, à environ 25 km de la frontière nigériane. Leur maîtresse Alice Feyou dit que les enfants étudient dans des conditions très difficiles.
Cette classe est surchargée, comme vous pouvez le voir. Je ne peux que faire avec. Il n'y a même pas moyen de se déplacer dans la classe, mais j'essaye de mon mieux. Il y a des maladies, vous avez la toux, la fièvre. Et comme la salle de classe est bondée, ils ont des plaies sur les jambes.
Lawan Detakon, directeur de l'école publique de Kolofata, non loin de Mora, reconnaît qu'il a du mal à s'occuper des enfants camerounais dans leur propre pays.
Ici, au campus, ils sont au moins 520. Il y a beaucoup de choses qui manquent concernant le WC. Le WC, le point d'eau, un seul point d'eau pour 500 élèves, ce n'est pas facile.
Il affirme que plus de 500 élèves dans son école ont une seule source d'eau potable et ils n'ont pas de latrine. Le gouvernement du Cameroun affirme qu'au moins 70 000 enfants d'âge scolaire et 100 000 personnes ont été déplacées par l'insurrection de Boko Haram. Fekoué Ngaha Joseph, chef du village d'Amang, près de Mora, dit avoir demandé aux bonnes âmes de prendre en charge les personnes déplacées arrivant dans son village.
Depuis 8 mois, église par église, mosquée par mosquée, on collecte un peu de 1 000, on se nourrit avec. On avait recensé 1692 dans ce village.
Moussa Ibrahim, ses 3 femmes et 9 enfants ont quitté Fotokol il y a 2 mois après une attaque des combattants de Boko Haram qui a fait au moins 500 morts. Il affirme que la nourriture qu'ils reçoivent du chef Fekoué Ngaha Joseph est largement insuffisante.
Si vraiment les autorités nous comprennent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il y a les enfants qui ne trouvent pas à manger. Souvent, nous les grands, on n'arrive pas à manger. On donne aux enfants, nous on ne mange pas. On boit la bouillie sans sucre. Souvent, les femmes préparent la sauce. La sauce est déjà préparée, il fait descendre ça sur le feu, mais ils ajoutent l'eau. Les gars, on peut manger ça? On ne peut même pas manger.
Le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Joseph Mbandam, déplore que son pays se concentre beaucoup plus sur la lutte contre Boko Haram que sur la prise en charge des déplacés internes.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le Niger. Face à la menace Boko Haram et l'insécurité alimentaire, comment va ce pays dirigé depuis 4 ans par Mahamadou Issoufou? Nous en parlerons à l'occasion d'une interview que nous a accordée le président nigérien. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
On se rend maintenant à Charleston, en Caroline du Sud, ici aux États-Unis. Michael Slager a été révoqué de la police de Charleston, a annoncé le maire Keith Sommet lors d'une conférence de presse aujourd'hui. On a vu ce policier blanc sur vidéo tirant à plusieurs reprises sur un homme noir non armé. D'ailleurs, il faisait l'objet de deux enquêtes du département américain de la justice et du FBI, donc la Sûreté fédérale. On écoute Lionel Gaïma.
Walter Scott, qui était âgé de 50 ans, a été abattu samedi dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, après une altercation avec le policier Michael Slager. À un contrôle routier, l'un des feux de son véhicule ne fonctionnant plus. Une vidéo prise par un passant montre le policier tirer plusieurs fois sur Scott alors que ce dernier s'enfuyait. Quand il s'est effondré, Slager s'est dirigé vers lui pour lui passer les menottes. Selon la version initiale de faits, le policier avait soutenu n'avoir ouvert le feu qu'après que Scott ait arraché son pistolet paralysant pendant une altercation. Je peux vous dire que, du fait de la vidéo et de la mauvaise décision prise par notre agent de police, il sera inculpé de meurtre.
He will be charged with murder.
C'est l'avocat de la famille Chris Stewart qui a remis l'enregistrement vidéo au New York Times qu'il a posté sur son site.
And as we watched the news where the mayor announced that the officer would be...
Alors que nous regardions les informations, lorsque le maire a annoncé que le policier sera inculpé de meurtre, tout le monde dans la maison a pleuré et on s'est embrassé. Cela a apporté un petit soulagement et la joie que le chemin vers la justice vient de s'ouvrir et que, pour la première fois depuis longtemps, un policier va être inculpé lorsque pareille chose a lieu. Avec l'inculpation du policier Slager, l'espoir est grand que justice sera rendue, a dit de son côté Anthony Scott, frère de la victime.
We can't get my brother back.
Nous ne pouvons pas ramener mon frère à la vie et ma famille est profondément endeuillée, mais à travers ce processus, la justice est en marche. Et je ne veux pas croire que tous les policiers sont mauvais, mais il y en a qui sont mauvais et je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit abattu comme mon frère l'a été. La direction d'investigation criminelle de l'État de Caroline du Sud a ouvert une enquête, tout comme le ministère américain de la Justice et le FBI, la police fédérale. Plusieurs récentes affaires dans lesquelles les policiers avaient abattu les Noirs non armés, notamment Ferguson dans le Missouri, Cleveland dans l'Ohio et dans la ville de New York, avaient donné lieu au plan national à des manifestations massives dénonçant la violence policière contre les minorités.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
To your curves like little erases. Girl, your funky little backbeats got me feel like I'm tipsy and I ain't even had a drink.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
En Centrafrique, le tribunal correctionnel de Bangui a condamné ce matin à 2 ans de prison ferme le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat pour le viol d'une mineure de 16 ans le 25 janvier dernier.
Le Rwanda s'est félicité de la déclassification par Paris des archives de la présidence française sur le Rwanda de 1990 à 1995, donc la période du génocide, non sans rester toutefois prudent sur la portée de la décision.
À N'Djamena, les enseignants du primaire et du secondaire ont déclenché une grève ce mardi pour dénoncer les retards de paiement de leurs salaires.
Washington accélère des livraisons d'armes à ses alliés du Golfe en appui à la campagne menée par l'Arabie Saoudite contre les Houthis pro-iraniens au Yémen.
L'Union européenne a de nouveau approuvé des sanctions contre une banque et 32 sociétés d'expédition iraniennes, environ 3 mois après le rejet de telles mesures par un tribunal européen.
Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a appelé ce mercredi, aux côtés du président russe Vladimir Poutine à Moscou, à abandonner le cercle vicieux des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de Moscou. Voilà quelques points dominants de l'actualité.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma.
Il était assisté de Micha Dubinsky à la console technique.
Présentation Morgane Guiriac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.